Merci. D'abord, je m'excuse pour mon retard, mais j'avais prévenu que je ne pourrais être là qu'à partir de 10 heures. Et je te remercie d'avoir pensé à moi. C'est vrai qu'on commence à avoir une certaine complicité, toi et moi. Et effectivement, mon institut est très heureux de participer à ce qualité, à cette journée. Je dois dire que je ne savais pas que ça allait être centré sur la question de l'homosexualité. C'était la
question.
En général. Non, c'est genre. Ah bon, d'accord. Comme tu disais, c'est la journée de l'homosexualité.
Ça, c'est vrai.
Voilà. Donc ça, je ne savais pas. Alors, je n'ai pas centré. Donc, j'aborde marginalement, mais quand même, j'ai pour le débat, j'ai quand même travaillé la question. Donc on pourra en parler. Alors moi je vais m'exprimer ici donc un peu en tant qu'historien des textes fondateurs et des lectures orthodoxes. Des réceptions orthodoxes de ces textes et effectivement, j'avais prévu, si ça avait été la question m'a été posée, d'aborder plus longuement le bouquin. Donc au moment du débat, éventuellement, là, parce qu'effectivement, c'est un livre qui est totalement fascinant. Voilà. Alors, le titre. Ah, le titre. Qu'est-ce qu'il faut lire dans le blanc de mes titres? Il y a le blanc des yeux, puis il y a le blanc des titres. Alors, je précise que le Talmud, là je commence par une citation du Talmud. Le Talmud dit, dans un de ses traités, « La Torah parle le langage des hommes. » Le langage des hommes, c'est pas dire le langage de Dieu. La Torah parle le langage des hommes. Et puis il y a un des tubes des textes talmudiques qui va déjà vous mettre sur la voie. On imagine, je ne sais pas si ça s'est fait ou pas, il n'y avait pas France Info à l'époque, donc il y a une réunion entre rabbins qui discutent d'un point de la loi. Et puis un des grands maîtres de la tradition, qui s'appelle du Talmud, Rabbi Eliezer, qui donne son avis. Et puis il dit, si les autres ne sont pas d'accord, la majorité n'est pas d'accord, et il dit, si j'ai raison, eh bien que cette rivière remonte à sa source. Et la rivière remonte à sa source. À ce moment-là, on lui dit, oui, mais la Torah n'est pas une affaire de magie. Rabbi Eliezer, il dit, si j'ai raison, que les murs de notre maison d'études s'effondrent. Et les murs commencent à s'incliner dangereusement. Il n'y a que chez les juifs qu'on parle aux murs et les murs répondent. Et à ce moment-là, ils s'inclinent dangereusement. Puis à ce moment-là, il y a des rabbins qui disent, mais qui êtes-vous, vous, les murs? L'humour juif commence dans le Talmud. Qui êtes-vous, vous, les murs, pour prendre parti dans une discussion entre ça? Les murs, profondément, très impressionnés par l'un et par les autres, restèrent inclinés pour l'éternité. Et j'ai l'habitude de dire que la vérité dans le judaïsme, elle est toujours de biais. Voilà. Et puis alors, enfin, il lance son joker, c'est beaucoup plus long que ça, cette histoire. Et il lance son joker, il dit, si j'ai raison, dit Rabbi Eliezer, eh bien que la voix divine intervient. Et la voix divine intervient. Et il dit, mais Rabbi Eliezer a raison en tout. Alors normalement, on devrait se taire. Mais non, les juifs ne se taisent pas. Et à ce moment-là, le rabbi Yoshua, des maîtres qui est là, ça interpelle Dieu, il cite un verset de la Torah, de la Bible, qui dit « La Torah n'est pas au ciel, n'est plus au ciel. » Et il conclut « Tu nous l'as donné avec le principe que l'on décide, nous, à la majorité. » Et le texte se poursuit en disant « Dieu serait parti dans un grand éclat de rire en disant « Mes enfants m'ont vaincu », qu'on peut lire, parce que vous savez que c'est le texte hébreu est consonantique, enfin le texte n'est pas consonantique, mais on peut le lire en le vocalisant différemment. Alors soit on le lit « Mes enfants m'ont vaincu », soit « Ils m'ont rendu éternel ». Ça veut dire que c'est la lecture de l'homme qui rend l'éternité au texte et donc à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle en hébreu, le texte de la Torah est dit aussi « mikra », comme la même racine que « Coran », c'est-à-dire ce qui est lu, c'est le lu. Et Rashi, qui est un des grands commentateurs juifs du Moyen-Âge, imagine un verset, et le verset qui demande à son lecteur « Darcheni, scrute-moi, recherche-moi ». C'est-à-dire, moi, j'ai toute une série de virtualités pour cela. Et c'est la raison pour laquelle, dans la tradition juive, on ne parle pas de révélation. C'est pas la révélation. Ça, c'est un concept grec. C'est pas de la révélation. Ou chrétien. C'est pas la révélation. On parle de Matan Torah, le don de la Torah. On donne la Torah au Dieu donne la Torah aux hommes. Donc, c'est l'homme qui a reçu ce don-là. Et il y a donc une sorte de primat du texte sur Dieu lui-même, et que va suggérer le Talmud lui-même, parce que, à partir d'un texte de Jérémie, où Dieu dirait « J'aurais préféré qu'Israël m'eût abandonné moi et eût gardé ma Torah. » J'aurais préféré qu'Israël m'abandonne moi, Dieu, hein, et garde ma Torah. Donc, la Torah, eh bien, elle est destinée aux hommes, et c'est la raison pour laquelle, lorsque dans un Midrash, les anges disent à Dieu, mais comment tu peux remettre ta Torah à un être, à Moïse, qui est né d'une femme, d'un sexe de femme, comment peux-tu faire ça? À ce moment-là, il y a Moïse qui est là, et Dieu dit à Moïse, réponds. Et Moïse dit, mais attendez, vous les anges, vous êtes capables d'adultère? Vous êtes capables de zoophilie? Vous êtes... Donc, et à ce moment-là, les anges se taisent. Et à ce moment-là, Dieu prend la valeur, le concept de la vérité, et la jette sur la terre, en disant, désormais, la vérité germera de la terre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je conclue ce premier temps, de la même façon que pour la tradition biblique juive, Dieu ne saurait se donner dans un nom, puisque le nom est indicible. Le nom est indicible. Ce qu'a découvert, Benoît XVI, vers la fin de son mandat, enfin donc avant sa démission, avait dit maintenant il faut qu'on n'écrise plus le nom de Dieu dans les Bibles et la liturgie. De la même façon que pour la tradition biblique et juive, Dieu ne saurait se donner dans un nom indicible, imprononçable, se présentant d'ailleurs à Moïse comme non pas je suis celui qui suis, mais en hébreu je serai celui que je serai, ce qui change tout. De même, le langage de la Torah et sa lecture ne saurait se référer à un sens absolu, à un centre localisable, et là je cite le professeur Henri Atlan, je cite, une origine, qui est aussi biologiste, une origine des significations, donc le texte se référait à une origine des significations, un Dieu donc, celui de la théologie, le seul discours sur Dieu qui ne soit pas idolâtre ne peut être qu'un discours athée. Fin de citation. Mais si, donc toujours pour la prévention à l'égard de l'idolâtrie du texte, mais si la transcendance, entre guillemets, pourrait-on dire, déserte le texte et sa lecture, où elle va trouver sa résidence? Où? Eh bien, dans des êtres sexués. Elle va dans des êtres sexués, la vérité jaillira de la terre, mais des êtres sexués créés à l'image de Dieu. Là, on retrouve la transcendance, mais dans l'homme, dans des êtres sexués, l'homme et la femme, dont transcendance sur le sexe. Ainsi, pour la tradition juive, Adam est créé en plénitude circoncis, pour le Midrash. Il naît circoncis. C'est-à-dire que Dieu l'a créé sans prépuce. En hébreu, prépuce, c'est orla. Orla, étymologiquement, c'est ce qui ferme, c'est ce qui enferme. Le prépuce renfermerait le sexe sur lui-même. Son retrait, symboliquement, l'ouvrirait à l'autre humain, ce qui sera la femme, pour le texte de la Genèse, et à l'autre Dieu, avec un grand A. Et c'est à ce propos, il y a un Midrash qui cite le livre de Job, « Je verrai Dieu à partir de ma chair. » Je verrai Dieu à partir de ma chair. Et il y aura des équivalences entre « il circoncira » et un des noms de Dieu, je passe. Donc ainsi, si Adam naît circoncis, c'est parce que son sexe marqué du sceau de l'Alliance est ainsi marqué de celui de la transcendance, ce qui fera que, ontologiquement, la sexualité sera une modalité de la sainteté qui sera d'ailleurs attestée dans le droit et dans le droit matrimonial et la vie matrimoniale. Et si l'alliance se porte sur le sexe de l'homme, c'est parce qu'il est l'organe de la génération, bien sûr. Or, précisément, le premier commandement reçu par l'homme dans la Genèse, c'est celui de l'engendrement. Ainsi, l'engendrement doit-il être marqué par la sainteté de l'alliance, de la circoncision. Donc, on a bien compris donc là qu'à l'athéisme du texte se substitue une transcendance des textes, des sexes. Et des textes du Talmud, et surtout la Kabbale, iront jusqu'à dire que la présence divine réside dans l'accouplement, dans la relation sexuelle harmonieuse entre l'homme et la femme. Alors j'aborde le deuxième temps de mon propos. Ben ça par contre tu le connais, hein. Je m'excuse, c'est une synthèse de mon article.
J'apprends toujours. Ouais.
Donc, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la différence sexuelle s'inscrit dans une cosmologie bien plus large de la différenciation. Ainsi, le Talmud va dire que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé masculin et féminin. Donc c'est une cosmologie d'ensemble. Masculin et féminin. C'est-à-dire que la relation homme-femme n'est qu'une, un cas particulier dans cet ensemble que constitue la création qui, en tant que telle, est divisée et séparée entre le masculin et le féminin. Et c'est cette idée de séparation, de différenciation, est à la source même du concept de sainteté. Dieu, c'est le sainteté, kadosh en hébreu, c'est ce qui est à part, ce qui est distinct. Donc Dieu est à part, il est distinct. Il est distinct des dieux païens, il est distinct bien sûr de l'homme. Hein. Donc c'est à ce sens-là. Et alors en hébreu, la nomination du genre est fortement sexuée. En hébreu, masculin se dit zahar, c'est-à-dire ce qui perce, ce qui pénètre. Et féminin se dit nekeva, de nakov, nakov en hébreu, qui induit la notion de distinction, mais aussi l'idée d'être pénétré, d'être percé. Et donc il ne saurait, dans ce contexte-là, il ne saurait y avoir une confusion des genres. D'où l'interdit absolu du travestissement vestimentaire. Alors ça, c'est ce que dit le texte biblique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une lecture, par exemple de Rashi, qui dit, ça, si vous voulez vous travestir chez vous comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Hein? Mais, attention, pas en société. C'est-à-dire, dans la société, pas de confusion des gens. Surtout, ne pas se mêler, si vous êtes déguisé en homme, hein, avec d'autres hommes. C'est la confusion qui crée le problème. C'est la confusion. Mais si vous voulez vous travestir chez vous, mais ça, c'est la tradition orale. Hein, c'est la tradition orale juive, le Talmud, etc., qui va préciser ça. Donc, interdit absolu du travestissement, et interdit aussi, dans le texte biblique, de l'homosexualité, mais ça, on pourra y revenir. Ne couche pas. Donc, le texte dit, Lévitique 18, on le retrouve au Lévitique 20, ne couche pas avec un homme comme tu couches avec une femme. Comme tu couches avec une femme. Ça, peut-être on y reviendra. On y reviendra certainement d'ailleurs. Dans les deux cas, on parle de toeva, que l'on traduit par ceci est une abomination. Bon, c'est le terme qu'on utilise dans de nombreuses autres occurrences. Hein, c'est-à-dire, et on parle aussi des Égyptiens qui ont une abomination pour ce que font les Hébreux. Donc ce mot de toeva, ce mot est utilisé à de multiples reprises. On parle de toeva pour le travestissement, pour le fait de coucher qu'un homme couche comme on couche avec une femme. Et certains rabbins vont jouer sur le mot toeva. Toe, c'est se tromper. Va en cela. se tromper en cela. Donc il y a des rabbins qui vont jouer, ils adorent jouer sur les mots. Toé, se tromper. Va en quoi? Se tromper en cela. Donc, alors on y a, donc il y a toute série de commentaires qui vont dire que c'est aussi des références à des pratiques païennes à l'époque. Hein, à des pratiques païennes de travestissement et des pratiques sexuelles. Alors, contrairement à certaines traductions, il n'est pas écrit « tu ne coucheras pas avec un homme ». Mais pas avec un homme, avec les façons de coucher avec une femme. C'est-à-dire que ce qui est en question, c'est non l'homosexualité. On ne parle pas de type de sexualité. Ce n'est pas l'homosexualité, en général. Mais la pratique qui subvertit l'ordre des genres, à savoir que le propre du masculin n'est pas d'être pénétré. Seuls les rapports anaux entre hommes seraient donc interdits. Ce qui n'est pas le cas dans une relation hétérosexuelle. Dans une relation hétérosexuelle, il peut... l'homme peut pénétrer la femme. Voilà, l'homme peut pénétrer la femme de façon... Voilà. Donc, ainsi, le... Pardon ?
Bah, la femme aussi. Hein. Il n'y a pas besoin d'un pénis pour pénétrer.
Oui, oui. Non, mais non, je parle des textes, que dit le texte.
Ah oui,
je parle des textes, je parle des textes. Je parle que des textes, moi. Ainsi, le Talmud renverrait à des pratiques. Donc, il y aurait d'une part la pénétration anale, d'un côté, et il y aurait d'autre part des pratiques homosexuels qui bon de masturbation ou autre qui alors ça c'est autre chose hein, c'est autre chose et là qui ne tombe pas sous la catégorie de la toeva hein, ça c'est donc ça par contre ça ne rentre pas dans ce cadre là donc alors et si les relations alors Martine Gross est la spécialiste si les relations homosexuelles féminines ne sont pas mentionnées, c'est que, précisément, comme le dit Daniel Boyarin, elles ne brouillent pas le dimorphisme des genres, parce qu'elles ne sont pas conceptualisées comme pénétration, dit Daniel Boyarin. Donc, on recommande pas le lesbianisme, bien sûr, mais d'abord on n'en parle pas, primo. Donc déjà on n'en parle pas. Alors là, la tradition orale, Maïmonide en parle, etc. Donc on en parle, mais on dit bon ben si j'ose dire c'est moins grave que si c'était pire. Voilà. Donc et puis dans un certain sens on dit oui mais c'est Maïmonide il dit oui mais c'est quand même un signe de révolte contre l'homme, hein, contre le mari. Donc voilà. Mais c'est pas la pratique elle-même hein, qui est elle est pas là par contre. Silence, on n'en parle pas. On pourrait dire des tas de choses encore là-dessus, si vous voulez. Donc, eu égard à tout ce qu'on a dit, le premier récit de la création, en fait, pourrait prêter à, ben, justement, à confusion. Parce que, on y lit que Dieu a créé l'homme à son image, masculin et féminin, il les créa. Donc, ontologiquement, le masculin et le féminin sont mis sur le même plan. Mais là, on a affaire, alors, dans le premier récit, à un Adam qui est androgyne. Et ça va plus loin, puisque pour la Kabbale, Dieu lui-même est masculin et féminin. Et c'est ce que donnent des commentaires, disent, ben c'est précisément parce que Dieu lui-même, il a un versant masculin et un versant féminin, qu'il faut qu'il y ait une prière collective masculine qui touche le versant masculin de Dieu, et une prière collective féminine qui touche le côté féminin de Dieu. D'où la justification au niveau kabbalistique, etc., de la séparation dans les synagogues entre hommes et femmes. Et puis un autre texte de la Bible, c'est le chant, le cantique de l'antique de la mer Rouge, qui est chanté et par les hommes d'un côté, et par les femmes de l'autre. Puis vous avez d'autres textes, évidemment du Talmud, qui sont beaucoup plus prosaïques, qui disent non, c'est pour pas être perturbé, il y a de tout, hein, dans le Talmud. Vous avez, c'est comme la Samaritaine, hein, vous avez ou l'auberge espagnole, je suis moi-même séfarade, le mot espagnol, séfarade venant de espagnol. Bon. Donc, la création de la femme dans le second récit biblique, en tant qu'être autonome sexué, d'une part, sauvegarde comme vecteur d'engendrement la pérennité de l'espèce humaine, et là ça rejoint le premier commandement, croissez et multipliez, et d'autre part, de par sa singularité, sauvegarde la singularité du divin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Commentaire de la tradition, c'est-à-dire parce que sinon il se prendrait pour Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est seul. Donc il se prendrait pour Dieu. Donc on va dire, ah, on va lui créer un être humain pour lui dire, hé, coco, t'es pas seul, tu ne te prends pas pour Dieu. Et c'est là pour ça que la tradition va dire que le mot côté, la côte, c'est le côté. C'est aussi le côté. C'est-à-dire la femme a pour vocation d'être la limite de l'homme pour qu'il ne se prenne pas, pour Dieu. Voilà. Donc, après, pourquoi la côte ? Alors, il y a des tas de textes misogynes, là, je passe là-dessus, et notamment, un truc marrant quand même. Donc, c'est quand même, pourquoi elle n'est pas née de la bouche, parce qu'elle saurait justifier un penchant pour le bavardage, des oreilles, les oreilles pour la curiosité. Alors, pourquoi de la côte ? Ben, parce que la côte, elle est cachée par la peau. Elle induit un comportement de discrétion, de pudeur, etc. C'est intéressant parce qu'on voit que toutes ces références métaphoriques que la femme biologiquement sexuée a aussi été construite, on le voit on voit par toutes ces références métaphoriques que la femme biologiquement sexuée a aussi été construite en un genre avec des traits issus d'une culture, d'une mentalité, bref, d'une anthropologie, c'est-à-dire vraiment patriarcale, etc., etc. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que soit créée la femme, on dit dans le texte biblique que Dieu a amené à Adam pour voir pour nommer les animaux. D'ailleurs, c'est pas les nommer, non, c'est pas du tout, c'est pour coucher avec. C'est pour coucher avec. Et là, Adam, il a dit, non, c'est pas ça marche pas. C'est pas mon truc. Je prends pas mon pied, là. Ça va pas. Alors, Dieu dit, bon, d'accord, je vais prendre autre chose. Donc, échec du désir devant l'accouplement des animaux. Ce que va entériner ensuite le droit biblique avec l'interdit de la zoophilie. L'interdit de la zoophilie, donc Exode 22 et Lévitique 18. Qui suit immédiatement l'interdit de l'homosexualité. Dans le verset, c'est l'interdit de l'homosexualité. C'est-à-dire que l'accouplement avec l'animal, comme d'ailleurs l'ingestion de son sang, parce qu'on n'a pas le droit de prendre le sang de l'animal après l'avoir abattu. L'accouplement avec l'animal, comme l'ingestion de son sang, impliquerait une confusion des espèces, régression vers la pulsion. Et la proximité des interdits de la zoophilie et de l'homosexualité, d'après donc certains commentateurs, tiendrait à l'impossibilité de la reproduction dans les deux cas. Or, celle-ci, évidemment, renvoie au premier commandement, c'est-à-dire reproduire l'image de la transcendance. C'est-à-dire, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu. J'ai mis devant toi, donc dans le Deutéronome, je vous cite toujours des commentaires, j'ai mis devant toi le bien et le mal, dit Dieu, j'ai mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, tu choisiras la vie afin que tu vives, toi et ta semence. C'est-à-dire que ma vie, ce n'est pas que ma vie, c'est aussi ma lignée. Afin que tu vives, toi, et, donc c'est pas que ma vie, c'est aussi ta lignée. Donc je saute. Je vais dire aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rabbin polonais du 18e siècle, si je me souviens bien, dira que c'est précisément parce que on a tous en nous un pôle masculin et un pôle féminin que on est attiré les uns par les autres, c'est-à-dire que la femme est attirée par le féminin de l'homme et inversement. C'est par ce biais-là. C'est parce que c'est deux pôles en nous. Voilà. Toujours par rapport au monde animal, si l'homme et la femme avaient été créés ensemble, parce que dans la Kabbale on dit qu'ils ont été écrits, ils auraient été, Dieu avait pensé à les créer en même temps dans la Kabbale. Mais si l'homme avait été créé ensemble de la terre, chacun aurait, comme des les animaux qui sont eux aussi nés de la terre, chacun aurait pris son autonomie sans que soit noué un lien d'attachement fort. Et alors, à partir du moment où la femme est extraite de l'homme, et qu'elle est sa côte, un manque et un besoin sont créés entre les deux êtres qui, à ce moment-là, font qu'ils sont plus fortement attachés l'un à l'autre. Et donc, et pas comme les animaux qui, à partir d'un certain moment, vont s'égayer dans la nature. Et c'est à partir de cette clé de lecture que l'on peut comprendre, enfin, le verset « Et là-dedans, quittera père et mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'une seule et même chair. » Donc c'est toujours dans le deuxième truc de la chapitre de la Genèse. Et les commentateurs, dont Maïmonide, donc il s'attachera à sa femme et non à la femme de son voisin, ni à un homme, ni à des animaux, ni, puisque c'est à sa femme, donc on exclut toutes les autres possibilités. Mais ce qu'il faut retenir, enfin, c'est que le droit matrimonial, le droit hébraïque, va retenir des deux commandements de la Genèse, il va retenir que croissez et multipliez la sexualité a un double objet. D'une part, effectivement, la reproduction. Croissez et multipliez, c'est le premier commandement. Mais l'homme s'attachera à sa femme et ils feront une seule et même chair. Et là, il y a le deuxième commandement, c'est la relation, la sexualité pour la sexualité. Et donc, dans le droit hébraïque, vous avez l'homme et la femme ont, alors là, en l'occurrence, c'est l'homme, donc, parce que le mariage est à l'initiative de l'homme, juridique. Donc, l'homme doit assumer cette dimension de reproduction, mais il doit aussi satisfaire sexuellement sa femme, en dehors même du souci de reproduction. Et c'est le commandement de Ona, c'est-à-dire de fréquence de la relation sexuelle. Ce qui fait que l'homme, la femme doit par exemple demander l'autorisation à son mari, l'homme doit demander son autorisation à la femme s'il doit partir très longtemps en voyage pour affaires, etc. Parce qu'il la prive de son droit conjugal. Donc il va y avoir toute une série de règles, et puis après il va y avoir toute une série de traités. Alors quand vous lisez ça, vous pensez que c'est des trucs de piété, lettres sur la sainteté, portes de la sainteté. C'est en fait toute une série de textes à destination des futurs jeunes mariés qui leur disent voilà comment éveiller le désir auprès de sa future épouse. Voilà, tu lui parleras avec des mots de douceur, tu lui donneras des références, des mots de piété, et puis tu prendras ton plaisir après avoir donné le plaisir à ta femme, etc. Donc, des petits, de sorte de manuel de sexologie, mais le titre c'est « Lettres sur la sainteté », parce qu'effectivement, la sainteté se trouve aussi dans la relation sexuelle. Je vais conclure. Bon, j'avais des choses à dire sur, mais ça, à la limite, sur le péché originel, ce que le chrétien appelle le péché originel, qui n'a absolument pas la même résonance dans le judaïsme que dans l'islam, c'est la même chose d'ailleurs, qui n'a pas du tout la même résonance que dans le christianisme, et qui n'a jamais été mis en relation avec la sexualité. Puisque, pour la tradition juive, là, c'est Adam et Ève, dans un midrash, je ne peux pas vous rentrer dans les détails, même si c'est croustillant, Adam et Ève ont fait l'amour dans l'Éden. Donc il y a eu d'abord sexualité, acte sexuel, déjà dans l'Éden. Alors, je conclurai précisément, pas précisément d'ailleurs, et après on pourra parler sur l'aspect, s'il y a des questions, on parlera sur la sexualité, sur tout ce que j'avais pris, quand j'ai su qu'on allait parler de l'homosexualité après, quand j'ai vu le programme complet. On va en parler. Bon. Alors, oui. Je terminerai justement. J'ai commencé par la circoncision. Je vais terminer par la circoncision. Alors, c'est intéressant parce que la circoncision, dans la tradition juive, se fait le 8e jour après la naissance. Sauf si le bébé a une jaunisse, etc. Mais évidemment, bon. Le chiffre 8 est messianique. Il est messianique. Et rituellement, on dépose le bébé, avec son parrain, sur le fauteuil dit du prophète Élie. Le prophète Élie, dans la Bible, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il part dans un chariot de feu. Il ne meurt pas. Il est toujours. Donc, il participe à chaque circoncision. Il témoigne. Et le chiffre 8 renvoie au temps messianique, donc. Ça veut dire que chaque enfant, à ce moment-là, a des virtualités messianiques, qu'atteste le prophète Élie par sa présence à ce moment-là. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans le premier à pratiquer la circoncision, c'est qui ? C'est Abraham. Enfin, dans le texte biblique. L'alliance avec Abraham. Or, vous savez que Abraham ne s'appelait pas Abraham. Il s'appelait d'abord Abram. Ça, on l'oublie. Abram. Donc, après, c'est au moment de la circoncision, il va intégrer une lettre féminine. En hébreu, il y a des lettres masculines et des lettres féminines. Le H, si vous voulez, est une lettre féminine. Donc, il va intégrer cette lettre féminine à son nom. Il y a la même lettre féminine chez Sarah. Et c'est à partir du moment où il a intégré cette lettre féminine à son nom qu'elle ne va plus être stérile et que Isaac va pouvoir naître. Isaac, en hébreu, Yitzhak, c'est « il rira ». Donc, c'est-à-dire, il rira parce qu'il y a eu le dépassement de la stérilité. Et, circoncision, Abraham, donc l'intégration du féminin, et précisément, les temps messianiques, d'après les textes prophétiques, en ces jours-là, la lune aura la même taille que le soleil. Le masculin, le féminin. En ce temps-là, dit le prophète Osée, la femme n'appellera plus son mari Baali, mon possesseur. En plus, Baal, c'est un dieu païen. Ne m'appellera plus, la femme n'appellera plus son mari mon Baali, mon mari au sens fort du terme, mais Ishi, mon compagnon. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.